Ensuite, sur Rick, qui veut dire justement quelque chose sur Brown. Ensuite, il sortit son frère. Et sa main tenait le talon des sabres. Une manière justement d'expliquer le nom de Jacob. Jacob veut dire il talonnera. Talonner. À quel lieu ?
C'est-à-dire le talon
ou la centrée. Ensuite sortit son frère et sa main tenait le talon des sabres. On l'appela, on le nomma Jacob.
Isaac avait 60 ans à leur naissance.
62.
Les garçons grandirent.
Isaac devint un habile chasseur. Courant la steppe.
Jacob était un homme
tranquille, demeurant sous les tentes.
Isaac préférait Isaac.
Car le gibier était à son goût. Mais Rebecca préférait Jacob. Une fois Jacob prépara
un potage.
Et Esaü revint de la campagne et prit.
Esaü dit à Jacob, laisse-moi avaler
ce roux. Oui, d'où vient le mot. Ce roux, c'est roux.
Il mange du roux.
Le roux, c'est pas de lentille. Ce roux-là.
C'est pourquoi on l'a appelé Edom. Edom, c'est rouge.
Edom.
Edom, rouge. Adam, le rouge. L'homme. Et Adama, la terre rouge. Et pourquoi on l'a appelé Edom? Ceci, justement, pour expliquer comment Israël et Edom vont être cousins, en quelque sorte, des peuples frères. Jacob dit, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü répondit, voici que je vais mourir, à quoi me servira le droit d'aînesse? Jacob reprit, prête-moi d'abord serment. Il lui prêta serment, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob lui donna du pain et du potage de lentilles, il mangea et but, se leva et partit. C'est tout le cas. Ésaü fit du droit d'aînesse. Petite réflexion de l'auteur pour le lecteur. Alors, comme ça a été pour Abraham, ça va être pour Isaac. Il y eut une famine dans ce pays, dans le pays, en plus de la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Il se souvient, il a déjà écrit cela au chapitre 12e. Genèse, et au chapitre 20e, et Isaac se rendit à Guérar chez Abimélec, roi des Philistins. Voilà, nous retrouvons la même réalité. Le Seigneur lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Il ne faut pas aller prématurément en Égypte, ça le peuple ira plus tard, mais prends d'abord pied dans ce pays. Car c'est à toi et à ta race que je donnerai tous ces pays-ci et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Vous voyez combien le texte veut connecter ensemble Isaac et Abraham. Ce qu'Abraham fait, Isaac va le refaire, en quelque sorte. Pour montrer justement comment le Dieu d'Israël va devenir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Non pas seulement le Dieu d'une personne, mais le Dieu de toute une famille, et le Dieu qui se transmet. Réponse à l'histoire de Noé et de ses fils. Demeure au pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta race que je donnerai tous ces pays-ci, et je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta postérité, on veut montrer aussi la fidélité de Dieu à son alliance, bien entendu. Je rendrai ta postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, on reprend ce qu'on a dit pour Abraham. Je lui donnerai tous ces pays, et par ta postérité, se béniront toutes les familles de la terre, en retour, ou en signe, ou en conséquence difficile, à traduire de nouveau ce terme, de l'obéissance d'Abraham, qui a gardé mes observances, mes commandements, mes règles et mes lois. Ça, c'est un texte qui vient du Deutéronome. On ne parle pas comme ça encore dans le texte de la Genèse, dans l'Iaviste. Mes commandements, mes observances, mes commandements, mes règles et mes lois. Il a gardé mes commandements et il n'y en a pas pratiquement. Ainsi, Isaac demeura à Guérar. Les gens du lieu l'interrogèrent sur sa femme et il répondit, c'est ma sœur.
Oh là là.
Il eut peur que s'il disait c'est ma femme, ils ne le fissent mourir à cause de Rebecca, car elle était belle. L'histoire se répète.
Manque d'inspiration.
Manque d'inspiration ou répétition voulue. Il était là depuis longtemps quand Abimélec, le roi des Philistins, regardant une fois par la fenêtre, vit Isaac qui caressait Rebecca, sa femme.
Ah, ah c'est bien.
Abimélec appela Isaac, vous voyez, il y a des variantes, hein. Abimélec appela Isaac et dit, pour sûr, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire que c'était ta sœur? Isaac lui répondit, je me disais, je risque de mourir à cause d'elle. Abimélec reprit, qu'est-ce que tu nous as fait là? Un peu plus, quelqu'un du peuple, oui, c'est même pas lui cette fois-ci. Un peu plus, quelqu'un du peuple couchait avec ta femme et tu nous chargeais d'une faute. Alors Abimélec donna cet ordre à tout le peuple. Quiconque touchera à cet homme et à sa femme sera mis à mort. Vous voyez comment le même texte prend des variantes suivant que l'on veut un peu édulcorer les choses. Le tout premier texte, qui est probablement le tout premier, paraissait trop dur, trop violent, et on l'a petit à petit édulcoré. Et on reprend la même histoire d'abord du pharaon. Ça peut être un peu compréhensible. Puis alors, du roi des Philistins, et ici c'est le même roi des Philistins. Isaac fit des semailles dans ce pays. Tiens, vous avez entendu? Il devient sédentaire. Quand on fait des semailles, c'est qu'on se fixe. Sinon, on vit de la chasse. On vit des troupeaux dans le désert. Isaac fit des semailles dans ce pays, et cette année-là, il moissonna le centuple, de nouveau, exagération énorme. Il moissonna le centuple. Le Seigneur le bénit et l'homme s'enrichit, comme Abraham s'était enrichi, l'homme s'enrichit. Il s'enrichit de plus en plus jusqu'à devenir extrêmement riche. Il avait des troupeaux, de gros et de petits bétails et de nombreux serviteurs. Les Philistins en devinrent jaloux. Ça y est. Déjà s'annonçait la bagarre dans le sein maternel, cette fois-ci, elle va éclater. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, du temps de son père Abraham, les Philistins les avaient bouchés et comblés de terre. On se bagarre autour du puits. Et c'est une chose importante. Si vous voulez qu'un puits continue à donner de l'eau, il faut le laisser reposer. Si vous arrivez avec tout un troupeau de brebis et vous leur donnez à boire, l'eau va s'épuiser et il ne va revenir que petit à petit. Donc, quand on veut ne pas dire à la tribu suivante qu'il y a un puits à cet endroit, on le bouche. On fait comme s'il n'y avait rien du tout. Et donc, on garde la possibilité. On met des pierres, puis du sable tout autour, on ne voit pas qu'il y a un puits. Ça, c'est un truc que les Bédouins utilisaient encore maintenant. On sait très bien où sont les puits. Tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, les Philistins les avaient bouchés et comblés de terre. Abimélec dit à Isaac, « Pars de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Vous vous rappelez l'histoire de Lot et d'Abraham qui ne pouvaient pas se trouver dans le même endroit.
Et puis en Égypte, plus tard, ce sera la même chose.
Tout à fait. En Égypte, la population va se multiplier. Isaac partit donc de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père Abraham, et que les Philistins avaient bouché après le mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Il reprend la tradition. Vous voyez, on veut marquer constamment que Isaac suit les traces d'Abraham. De toutes les manières, j'espère que vous comprenez maintenant.
Oui, oui, oui.
Les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils trouvèrent là un puits d'eau vive. On a trouvé une nappe phréatique. Ah, ça, peut-être pas trop profond. Mais les bergers de Guérar entrèrent en dispute avec les bergers d'Isaac. Vous vous rappelez que les bergers de Lot et les bergers d'Abraham s'étaient mis en bagarre les uns avec les autres. Disant, l'eau est à nous. C'est le problème fondamental de tout le Moyen-Orient. L'eau est à nous. Celui qui a l'eau a tout. Le problème est fondamental. Et c'est pourquoi, bien que les Israéliens ne veulent pas rendre certaines parties des territoires occupés, parce que c'est dans ces parties des territoires occupés qu'il y a les bonnes nappes phréatiques. Vous voyez pourquoi on discute tellement sur les frontières. L'eau est à nous. Isaac nomma ce puits Essek, querelle, parce qu'ils s'étaient querellés avec lui. Ils creusèrent un autre puits. Et il y a encore une dispute à son propos. Il le nomma Sitna. Probablement, hein, signifie querelle, mais Sitna signifie on accuse. Hein, on revendique, mais on accuse vraiment. Sitna. Satan. Vous avez exactement la même racine que le mot Satan. Faire obstacle. Vraiment ça, faire obstacle. Sitna. Alors il partit de là et creusa un autre puits. Et il n'y eut pas de dispute à son propos. Il le nomma Rochovot. Rochovot, c'est-à-dire largeur de vue, largesse éventuellement. Rachav, c'est ce qui est large, ce qui est ouvert. Il n'y a pas de problème. C'est tout lisse. Et il dit maintenant, le Seigneur nous a donné le champ libre. Et il explique ça. Le Seigneur nous a donné le champ libre, l'ouverture, pour que nous prospérions dans le pays. De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là. Il dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai, je multiplierai ta postérité en considération de mon serviteur Abraham. Il en remet, hein? Il bâtit là un autel et invoqua le nom du Seigneur. Il dressa là sa tente, les serviteurs d'Isaac feraient un puits. Maintenant, on ajoute à l'autel le puits. Abimelech vint le voir de Gérard. Il conserve quand même de bonnes relations. Avec Ahouza, son familier, et Picol, le chef de son armée. Tiens, encore, c'est déjà le
général à vie.
Le but d'autrefois, hein? Le général à vie, oui. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous à moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous avons vu l'évidence que le Seigneur était avec toi, tiens. Et nous t'avons dit, et nous avons dit, qu'il y ait un serment entre nous et toi. Voyez, alliance. De même qu'Abraham avait fait alliance, qui avait fait alliance avec Dieu, cette alliance avec les hommes, même chose pour Isaac. Ils répondirent, nous avons eu l'évidence que le Seigneur est avec toi, et nous avons dit, ben, qu'il y a un serment entre nous et toi, et concluons une alliance avec toi, comme tu as une alliance avec Dieu, concluons une alliance ensemble. Jure de ne nous faire aucun mal, puisque nous ne t'avons pas molesté, que nous t'avons fait que du bien, et t'avons laissé partir en paix. Et ça, il se répète, le Pharaon avait aussi envoyé promener Abraham. Maintenant, tu es un béni du Seigneur. Il leur prépara un festin, ils mangeaient et buvaient. Levé de bon matin, ils se firent un serment mutuel, puis Isaac les congédia et ils le quittèrent en paix, Béchalon. Or, ce fut ce jour-là que les serviteurs d'Isaac lui apportèrent des nouvelles du puits qu'il creusait, et lui dirent, nous avons trouvé l'eau. Il appela le puits Sabé, Sheva, un serment, à cause du serment qui s'est fait, comme Be'er Sheva, qu'on traduit souvent par Be'er Sabé, Be'er. D'où le nom de la ville, Be'er Sheva, jusqu'à maintenant. On dirait, ici, tu n'as pas lu l'autre histoire de Be'er Sheva. On dirait que c'est quelque chose de nouveau. Quand Ésaü eut 40 ans, il prit pour femme Yehudite. Ça veut dire la juive, Yehudite. Fille de Be'eri, le Hittite. Be'eri, c'est l'homme du puits, le puisatier. Et Basmat, fille d'Elon, le Hittite. Basmat, c'est plus difficile à savoir ce que ça veut dire, Basmat. Elles furent un sujet d'amertume pour Isaac et pour Rebecca. Quand on prend des femmes hittites, on ne va pas les rechercher là où il faut, c'est-à-dire hein, par la bonne source, ça ne va pas très bien. Et puis alors, nous avons le beau texte. Isaac était devenu vieux, ça va vite, hein? Et ses yeux avaient faibli jusqu'à ne plus voir. Voir avait beaucoup d'importance avec Abraham, et voilà que Isaac ne voit plus. Donc, il décline un peu par rapport à Isaac. Il appela son fils aîné Ésaü, mon fils. Et celui-ci répondit, oui, me voici. Il reprit, tu vois, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, prends tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Alors, je dis qu'il aimait bien le gibier, hein? Apprête-moi un régal comme j'aime, et apporte-le-moi que je mange, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Bénédiction, hein, qui donne en même temps droit des nefs. Oh, Rebecca écoutait, elle aussi, Sarah, pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à son fils Jacob, je viens d'entendre ton père dit à ton frère Ésaü, porte-moi du gibier et apprête-moi un régal, je mangerai, je te bénirai avant, devant le Seigneur avant de mourir. Maintenant, mon fils, écoute-moi et fais comme je t'ordonne. Ça, c'est la maman, hein, qui aimait bien son fils. Va au troupeau, apporte-moi de là deux beaux chevaux et j'en préparerai un régal pour ton père comme il aime. Tu l'apporteras à ton père, il mangera afin qu'il te bénisse avant de mourir. Nouveau, le terme bénir revient constamment. Jacob dit à sa mère Rebecca, vois mon frère Ésaü est velu, et moi j'ai la peau bien lisse. Peut-être que mon père va-t-il me tâter, il verra que je me suis moqué de lui, et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. J'introduirai évidemment le verre dans le verre. Et sa mère lui répondit, je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Et écoute-moi seulement. Il va me chercher les chevaux. Il alla les chercher, les apporta à sa mère, qui apprêta un régal comme son père aimait. Rebecca prit les plus beaux habits d'Ésaü, son fils aîné, qu'il avait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevaux, elle lui couvrit les bras et la partie lisse du cou. Puis elle mit le régal et le pain qu'il avait apporté entre les mains de son fils Jacob. Il alla auprès de son père et dit, mon père, il répondit, oui, qui es-tu mon fils? Jacob dit à son père, je suis Ésaü, ton premier-né, j'ai fait ce que tu m'as commandé, lève-toi je te prie, assieds-toi et mange de ma chasse, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à Jacob, comme tu as trouvé vite mon fils. C'est, répondit-il, que le Seigneur, ton Dieu, m'a été propice. Isaac dit à Jacob, approche-toi donc, que je te tâte. Il n'en croit pas ses oreilles, donc il faut qu'il en croit ses mains. Approche-toi donc que je te tâte, mon fils, pour savoir si oui ou non, il y a encore un discernement à faire là, si oui ou non, tu es mon fils Ésaü. Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le tâta, et dit, la voix, c'est de Jacob, et des bras sur ce design, il ne le reconnut pas.
Oui, c'est cousu-t-il lent, hein, cette affaire.
Parfait.
Ou de quoi
la maladie d'Alzheimer, le père. Pardon?
Oh, 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 oh,
oh. La maladie d'Alzheimer, c'est pas possible.
La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, car ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Il dit, tu es bien mon fils Ésaü? Et l'autre répondit, oui. Isaac reprit, serre-moi et que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit, et il mangea, et lui présenta du vin, et il but. Son père Isaac lui dit, approche-toi et embrasse-moi, mon fils. Il s'approcha et embrassa son père, qui respira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi. Oui, il y a le goût, l'odorat, l'ouïe, le toucher,
le parfum.
Et après la vue.
Le parfum.
Pardon ?
Il y a le parfum.
Il y a le parfum, ben oui, l'odorat. Approche-toi, embrasse-moi mon fils. Il s'approcha, embrassa son père, qui respira l'odeur de ses vêtements. Il le bénit ainsi. Oui, l'odeur de mon fils est venue, comme l'odeur d'un champ fertile que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, froment et mou en abondance. Que des nations te servent, que des peuples se prosternent devant toi. Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère. Pas loin cette affaire, hein? Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. Tiens, on a déjà entendu ça. C'est Isaac qui reprend ça. Isaac avait achevé de bénir Jacob. Et Jacob sortait tout juste de chez son père. Sauf de son père Isaac, lorsque son frère Ésaü rentra de la chasse.
Tableau suivant.
Lui aussi apprêta un régal et l'apporta à son père. Et lui dit que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. Son père Isaac lui demanda, qui es-tu? Je suis, répondit-il, ton fils premier-né, Ésaü. Alors Isaac fut secoué d'un très grand frisson. Il dit, quel est donc celui-là qui a chassé du gibier et me l'a apporté? De confiance, j'ai mangé avant que tu ne viennes, et je l'ai béni, et il restera béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il cria avec beaucoup de force et d'amertume, et dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père !» Mais celui-ci répondit, « Ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. » Ésaü reprit, est-ce parce qu'il s'appelle Jacob, il supplantera, qu'il m'a supplanté ces deux fois. Il avait pris mon droit d'aînesse, et voilà maintenant qu'il a pris ma bénédiction. Dans un certain sens, c'est logique.
C'est la même chose.
Hein? Mais, ajouta-t-il, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Isaac, prenant la parole, répondit à Ésaü, je l'ai établi ton maître, je lui ai donné tous ses frères comme serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de mou. Que pourrais-je faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, est-ce donc ta seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Isaac resta silencieux. Ésaü éclata en sanglots. Alors son père Isaac prit la parole et lui dit, loin des gras terroirs sera ta demeure. L'autre, il avait la rosée du ciel et les gras terroirs. Que tu sois loin, loin des gras terroirs, que soit sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel, tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère. Tu as aussi une bénédiction. Il y avait bénédiction pour Ismaël, bénédiction pour Isaac, il y a une bénédiction pour Ésaü, il y en a une pour Jacob. Et donc, ce qu'on lui dit ici, on lui dit qu'il sera nomade. Loin des gras terroirs, tandis que l'autre va être un cultivateur. mais quand tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton. Donc il y a quand même une certaine parole de vengeance, là, possible, en tout cas, qui est donnée. Il semble que ce texte, que cette dernière partie de verset ait été ajoutée par après. Et c'est vrai que tu t'affranchiras n'est pas tout à fait clair. Enfin, ça semble être le sens. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père avait donnée à celui-ci. Et il se dit en lui-même, proche est le temps où l'on fera le deuil de mon père. Alors, je tuerai mon frère Jacob.
Un nouveau Caïn.
Voilà. Vous voyez comme les choses
se répètent.
Parce qu'il y a une force de jalousie et une puissance de domination qui est en route, une violence. Lorsqu'on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son frère aîné, elle fit appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. » Bah ! Ah, voilà. C'est elle qui donne le conseil. Mais plus le Seigneur dit à Abraham,
quitte.
Pas. Enfuis-toi chez mon frère là-bas, à Haran. Là, tu auras une protection. Tu habiteras avec lui quelque temps, jusqu'à ce que se détourne la fureur de ton frère, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. C'est mal de connaître, hein. Alors, je t'enverrai chercher là-bas. Pourquoi vous perdrai-je tous les deux en un seul jour? Voilà, vous voyez, ce texte, évidemment, est prémonitoire. Il va nous annoncer la suite, en nous donnant l'étymologie populaire de ces Ésaü qui veut dire roux, et d'Isaac qui veut dire, et de Jacob qui signifie il supplantera. Alors, évidemment, ceci n'est pas un texte
exemplaire.
Alors, oui.
Non, c'est parce que au verset 43, vous avez de nouveau dit pas, au quitte, au battant, et la théorie dit debout, ce qui n'est plus la même chose que pour la ramener.
Je vais te dire immédiatement quel est le texte hébreu. C'est vers toi-même, de nouveau.
Mais juste avant, oui, c'est dans la théorie, j'ai aussi, oui, chez moi. Mais avant, c'est juste debout.
À quel endroit?
Donc, maintenant, mon fils,
oui.
Écoute-moi, debout.
Ah, oui.
Oui, chez moi.
Coupe. Il y a de fait. Lève-toi. Tu as raison. Hein? Et maintenant, mon fils, Shema Bekoli, écoute dans ma voix. Bekoum, et lève-toi. Brach lecha. Fuis pour toi. Elle Lavan vers Laban, Achi ton frère, Arna, Ahara. Yashafta immo, et tu demeureras avec lui, Yamim Achadim, quelques jours, Adacher, Tachouv, Chamat Achika, jusqu'à ce que revienne, jusqu'à ce que ça pèse, jusqu'à ce que revienne la colère de ton frère. Le mot n'est pas toujours le même, hein? C'est pas le même que l'ech lecha, mais il y a quand même un pour toi. Il vaut mieux dire pour toi, on peut dire vers toi, hein, parce que le est ambigu, hein? Fuis pour toi ou fuis vers toi. retrouve-toi toi-même aussi. Voilà. Nous commencerons demain à partir de là. Je ne prendrai pas tous les textes, j'en prendrai quelques-uns, et quelques-uns qui sont importants dans l'histoire de Jacob surtout, parce que Isaac est au fond d'une transition, avec une transition entre Abraham et Jacob, mais simplement pour voir comment les deux textes se mêlent l'un à l'autre. La question qui reste, qui est posée par le texte, et que nous pouvons nous poser, c'est pas du tout édifiant cette affaire-là.
Il y a une question, pourquoi y a-t-il eu la vente du droit d'aînesse? C'est un doublé.
Ah oui. Ben, il veut montrer que Ésaü a déjà lâché quelque chose.
Voilà. Pourquoi la colère d'Ésaü, puisqu'il a déjà lâché?
Ah oui, mais... Est-ce que nous sommes aussi logiques? Nous lâchons parfois des choses, et puis nous nous repentons de les avoir lâchées. Et quand nous voyons les conséquences... Parce que profond, il y a une logique. Hein? Et si on veut suivre cette logique, c'est pour ça qu'il raconte l'histoire. C'est pour montrer qu'il y a quand même un bien fondé. Jacob n'a pas fait ça pour rien. Il y a un mensonge. Hein? Il y a une tromperie. Il y avait une tromperie au départ d'Abraham, c'est ma sœur, c'est une tromperie ici. Hein? Je suis mon frère. Ah, mais non. C'est mon frère. C'est moi, je suis Ésaü. Et il y a un mensonge. Et Saint-Augustin, c'est une histoire qui a pris toute une ampleur dans la théologie. Hein. Il dit, non est mentatium, ce n'est pas un mensonge, c'est un mystère. Est mysterio. C'est un mystère. Ce qui veut dire par là, attention, ne vous mettez pas au niveau du mensonge, essayez de découvrir le mystère qui est présent dans cette histoire. Cette histoire veut vous dire quelque chose. Cette histoire, qu'est-ce qu'elle veut nous dire finalement? Elle veut nous dire que nous sommes souvent soit égoïstes comme Ésaü, soit profiteurs comme Jacob. Hein, profitons des situations. Et Dieu va devoir traverser toute cette épaisseur humaine. Comment Dieu s'y prend-il pour traverser les péchés, les mensonges, les profits, les égoïsmes de l'homme? Et ça, c'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Exactement ça. C'est là où Saint-Augustin nous dit, ne vous arrêtez pas aux mensonges, allez voir ce qu'il cache. Voilà, maintenant, nous allons nous arrêter ici. Que l'histoire d'Abraham se situe à un commencement, mais pas le commencement initial, puisqu'il y a déjà le commencement anthropologique, il y a un sous-bassement. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des frères, il y a des générations, il y a des voisins, il y a des pays différents, il y a des langues différentes, et c'est sur cette réalité humaine que part le pèlerinage d'Abraham. À travers, il traverse cela, il traverse la réalité humaine. Et c'est bien ce que la Bible dit elle-même. Donc il ne faut jamais oublier cette réalité anthropologique à partir de laquelle la révélation se fait jour. Et la révélation se fait jour, ça c'est le chemin d'Abraham, dans les réalités, les situations concrètes telles qu'elles existent. Avec leur jalousie, avec leur violence, avec leur générosité, avec leur égoïsme, avec leur séparation, avec leur aspiration à l'amour, avec une réalité d'amour, avec de l'affection humaine, et tout cela, ça fait partie du chemin de Dieu. Et vous aurez remarqué que le livre est créé, a été composé, non pas seulement pour nous raconter des histoires, mais pour nous raconter nos histoires, d'une manière exemplative, comme je disais. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui se passent. Alors, beaucoup me demandent souvent, mais pourquoi revenir sans cesse à cet Ancien Testament, alors que nous sommes dans le Nouveau, et loin déjà. Il y a autant de trajet fait depuis Jésus jusqu'à nous, que depuis Jésus jusqu'à Abraham, peut-être même davantage. mais précisément parce que nous ne sommes pas encore tout à fait dans le nouveau. Jésus est toujours devant nous. Bon, nous le connaissons déjà parce que dans l'histoire, il est derrière. Mais dans nos vies, il n'est pas encore tout à fait devant. Bon, il est encore devant, mais nous ne sommes pas encore implantés en lui, plus exactement. Nous ne sommes pas encore devenus Jésus, hein. Tant s'en faut. Et donc, notre vie se passe à nous mettre en marche avec Abraham, à traverser l'histoire d'Israël, qui sont des expériences humaines et qui sont donc les nôtres, et à nous approcher le plus possible de Jésus. Nous savons seulement, c'est ce que Buber disait, la différence entre le christianisme et le judaïsme, c'est que le judaïsme croit que le Messie doit venir, et que le christianisme croit qu'il est déjà venu, et que nous avons besoin les uns des autres pour croire qu'étant venu, il doit encore venir. Et c'est vrai, étant venu, il doit encore venir, advenir dans nos vies. Alors, on nous reprend ces situations humaines à travers toute la Bible, mais ici, on parle encore davantage de personnes, de personnalités. Alors ça commence, c'est la petite cellule de révélation qui va s'ouvrir. Et le fil du texte nous dit comment les différentes choses humaines, les différentes réalités que nous vivons, entrent progressivement dans le plan de Dieu. Bon, ce texte est écrit après coup. Ce texte est une relecture. Comme des gens qui écrivent leur mémoire n'écrivent pas leur mémoire à 7 ou 8 ans. On écrit un peu sa mémoire quand on a vécu, quand on a une expérience, et quand on voit déjà les films qui se déroulent dans la vie et ce qu'ils sont devenus. Alors, ce que le texte veut nous dire, c'est que Dieu, je vais utiliser un mot très piégé qu'on n'aime pas aujourd'hui, c'est que Dieu récupère toute réalité humaine. La Bible est un travail de récupération extraordinaire. On récupère aussi les déchets aujourd'hui, hein. Vous récupérez, mais souvent, on utilise le terme récupérer, on veut les prendre pour soi. Et c'est pas ça. On essaie de trouver de la valeur dans ce qui paraît ne pas en avoir. Parce qu'il y en a, parce que Dieu est présent, parce que Dieu chemine à travers. Et donc c'est ce fil, même si parfois il apparaît de façon un peu brutale, et ça, il nous semble qu'il apparaît de façon un peu extérieure, extrinsèque, on essaye de tout faire rentrer dedans, mais Dieu doit travailler avec ce que l'homme lui donne. Et quand il lui donne de la jalousie, il doit traverser la jalousie. Mais la jalousie a quand même des effets néfastes. Et ces effets néfastes font du tort à l'homme. Et Dieu, dans sa patience et dans son respect de l'homme, accepte que ces jalousies, que ces violences, que ces massacres existent. Tellement il respecte la liberté de l'homme auquel il a remis sa propre existence. Mais à travers ces solutions humaines, toujours boiteuses, souvent mesquines, et qui creusent des blessures et des sillons profonds de lutte, d'incompréhension, de non-communication et de violence dans l'histoire, à travers toute cette route-là, il travaille, il marche avec la barre, c'est-à-dire avec l'homme, il marche. Et c'est un peu ça que la réflexion d'Israël, à travers ces textes, veut nous faire voir. C'est pourquoi vous avez constamment ces indicatifs qui reviennent. Ces indicatifs touchent, dans le texte de la Genèse, surtout le domaine de la bénédiction et de la promesse. Ils sont essentiels. Regardez, si je commence le premier verset, les trois premiers versets du chapitre 12, comme nous l'avons vu, par cinq fois, c'est la main de Dieu qui est présente, les cinq doigts de Dieu, si vous voulez. Je te bénirai, ton nom servira de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, par toi se béniront toutes les familles de la terre. C'est en retrouvant ce fil dans l'histoire d'Abraham que nous allons le redécouvrir dans nos situations humaines, dans nos situations d'hommes et de femmes, et nous savons, ou dans nos familles, ou dans notre ministère, sacerdotal, catégétique, pastoral, etc., nous savons combien ces blessures dans les couples sont profondes, sont difficiles. Et ce que nous avons à trouver précisément, c'est combien toutes ces blessures, qui demeurent des blessures, peuvent trouver leur place dans un chemin de grâce. Et les femmes, justement, et c'est ici l'évangile de saint Matthieu qui nous le dit, le début de l'évangile de saint Matthieu, ont une place essentielle dans ce cheminement de grâce, parce que les femmes interviennent toujours à un point délicat, un point où tout peut basculer, tout peut bifurquer. Elles interviennent pour reprendre en main, je dirais par une sorte d'intuition très sûre, pour reprendre en main l'histoire du salut qui est menacée. Lorsque vous voyez dans l'évangile de Luc, de Matthieu, au début de l'évangile de Matthieu, la généalogie, si on reprend la généalogie, c'est précisément pour nous remettre dans ce courant. La généalogie, c'est la succession des générations humaines. Et vous voyez que pratiquement ça fonctionne toujours bien, ces générations humaines, sauf quand c'est dans le plan du salut. Là, on met en évidence les obstacles. Il y a stérilité. Qu'est-ce que ça veut dire quand on réfléchit de cette manière-là? C'est drôle que précisément quand c'est dans l'axe du plan de Dieu, il y a des obstacles et des obstacles qui nous semblent majeurs. Ou bien stérilité, impuissance, et il faut qu'une femme intervienne là justement pour remettre la vie là où elle n'est plus. Ça veut dire qu'il y a une fécondité différente de la fécondité perçue sur le plan humain. J'hésite à parler immédiatement de fécondité spirituelle, c'est vrai, elle est spirituelle, mais c'est une fécondité de Dieu. Si nous prenons spirituel au sens profond du terme, c'est-à-dire une fécondité qui vient de l'esprit, d'accord. Alors, des choses qui pourraient paraître aberrantes, comme l'inceste, comme la mère porteuse, comme le mensonge d'un Abraham ou d'un Isaac qui fait passer sa femme pour sœur, il y a place pour toutes sortes de situations humaines qui ne sont pas prévues dès le départ, qui ne sont pas programmées, mais qui trouvent, je dirais, une place de grâce, une réalité de grâce dans le dessein de Dieu. C'est pas la normale, c'est pas exemplaire. Et il faut noter aussi tous les défauts que telles situations peuvent avoir, mais ils ne sont pas exclus du plan de Dieu. Ils sont parfois exclus d'une communauté, parce qu'on ne peut pas toujours vivre avec quelqu'un d'impossible. Et il faut parfois aller se balader ailleurs. Quand la présence d'Abraham devient menaçante pour Pharaon dit, va-t'en. Quand la présence d'Ésaü et de Jacob, l'un avec l'autre, devient intenable, il faut que quelqu'un se réfugie ailleurs. Ça, ce sont des situations humaines. Mais toutes ces situations humaines sont reprises dans un plan du salut. Je me rappelle un jour avoir entendu une conférence du père Gianfranco Ghirlanda, qui est professeur de droit canon à l'université grégorienne sur le thème Ecclesia souplette. Dans le droit canon, il y a une clause, l'ancien droit canon, qui disait quand il y a des situations difficiles, que par l'impossible nul n'est tenu, on ne peut pas, l'Église supplée. Et justement, il reprenait toute l'histoire d'Israël avec toutes ses failles, tous ses gros problèmes, et c'était le thème qui développait combien la miséricorde est présente dans le droit canon. Et combien, c'est vrai, il faisait une lecture du droit canon, où là aussi il utilisait tous les termes, une lecture tout à fait littérale. Cette lecture tout à fait littérale était extrêmement miséricordieuse. Il montrait comment la miséricorde s'insinue parfois dans un mot, dans un donc, dans c'est pourquoi, dans des petits, mais pas toujours dans le contenu immédiat, mais dans la manière de le présenter. Et il montrait que ce droit de l'Église était le droit chemin de Dieu à travers l'histoire tortueuse des hommes. C'était vraiment très beau. Et je crois que c'est un peu... Ça, c'est ce qui est repris dans l'Ancien Testament. On ne cache pas les failles. On dit qu'elles sont des failles, que ce sont des impuissances, que ce sont des difficultés et qui peuvent paraître insurmontables. On dit que parfois, il faut la séparation. Mais il y a des chemins. Il y a des chemins. La situation d'Abraham, qui va en Égypte, est d'une femme très belle. Et parce qu'elle est très belle, elle excite la convoitise des autres. C'est pas des situations inouïes, là. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Qui c'est ma sœur? Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire?